Et à 8h, c'est le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. C'est aujourd'hui samedi 6 octobre, la journée nationale des aidants familiaux. L'occasion de faire le point sur ces bénévoles sans statut ni rémunération qui s'occupent d'un proche. Le juge Brett Kavanaugh, bientôt à la Cour suprême des États-Unis, en dépit d'accusations d'agression sexuelle, le candidat de Donald Trump devrait être élu aujourd'hui pour intégrer la plus puissante juridiction du pays. Les ministères français dans l'attente, l'attente d'un remaniement après la démission du ministre de l'Intérieur. Un remaniement que vous ne manquerez pas d'aborder en compagnie de votre invité à 8h20, Éric Delvaux.
Oui, il s'agira du député LAREM, Aurélien Taché. On évoquera aussi les réformes et la mauvaise séquence de l'exécutif. Vos questions ce matin, Aurélien Taché, c'est dès maintenant au 01 45 24 7000.
Et puis à 8h10, le journal des sports présenté ce matin par Jean-Pierre Blimeau, sommaire du football avec notamment Ronaldo dans la tourmente, mais aussi du rugby avec le top 14.
France Inter.
Ils sont environ 11 millions de Français, femmes et hommes, à s'occuper d'un proche malade ou handicapé sans être rémunérés, souvent au détriment de leur travail, parfois de leur santé. Ils, ce sont les aidants familiaux qui n'apparaissent pas dans les comptes publics, qui ne bénéficient pas de statut juridique et dont c'est aujourd'hui la journée. Des aidants qui doivent souvent, pour la moitié d'entre eux, cumuler travail et assistance, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés, comme le montre ce reportage de Solène Cressan de France Bleu Paris.
Comme tous les jours au moment de sa pause déjeuner, Annie file chez ses parents
pour savoir si tout va bien. Et puis le soir, pareil.
Elle travaille à temps plein dans l'événementiel. Son père, 86 ans, est atteint de démence, une maladie apparentée à Alzheimer. Depuis 5 ans, elle lui consacre entre 3 et 6 heures par jour.
Il faut aller faire les courses. Il y a toute la partie intendance des visites chez les médecins. J'essaie de faire en sorte que mon travail n'empathise pas, mais la rigueur n'y est pas. Il y a des dossiers que je vais plus survoler que d'autres.
Ses collègues sont au courant, mais difficile pour Annie de parler de sa situation à ses supérieurs.
J'ai l'impression que si on déclare qu'on est aidant, on va un peu nous mettre au placard, nous dire « Ah bah, source de tension, source de problème, mon Dieu, comment on va faire ?»
Pourtant, pour les entreprises, l'épuisement, l'absentéisme sont aussi problématiques. C'est souvent par leur biais que Valérie Catry, déléguée à l'action sociale au sein de la mutuelle Malakoff-Médéric, réussit à conseiller et soutenir les aidants.
Nous, notre principal interlocuteur, c'est l'entreprise. Et l'ARH, ou l'entreprise, est tenue d'informer ses salariés sur les aides qui existent.
Des aides parfois financières, mais surtout beaucoup d'écoute. L'essentiel, dit Annie, qui s'impose une chose, passer un midi par semaine avec ses collègues.
Solène Cressan, c'est également aujourd'hui que débute la campagne nationale de vaccination contre la grippe. Principale personne visée, les patients dits à risque, notamment les plus de 65 ans et les femmes enceintes. Vaccination qui se fait chez le médecin, bien sûr, mais qui peut aussi, depuis l'an dernier, avoir lieu dans certaines pharmacies en fonction des régions. Changement de version pour Jean-Marc Reiser, celui qui est suspecté dans la disparition de Sophie Le Tan. En effet, reconnu hier que la jeune étudiante était montée chez lui dans son appartement de Strasbourg pour se faire soigner d'une blessure à la main. En revanche, il dément toujours son implication dans sa disparition. Enfin, l'ex-collaborateur de l'Élysée, Alexandre Benalla, a été interrogé lui hier pendant plusieurs heures et pour la première fois par les juges d'instruction. Rien n'a filtré de cette audition.
À l'étranger, en dépit des accusations d'agression sexuelle dont il fait l'objet, Brett Kavanaugh devrait finalement bien siéger à la Cour suprême des États-Unis.
Le magistrat conservateur et candidat choisi par Donald Trump a en effet bénéficié la nuit dernière du ralliement de sénateurs jusqu'alors indécis. Malgré l'audition émouvante de Christine Blasey Ford et nonobstant l'enquête du FBI, le juge Kavanaugh devrait donc être élu dans la soirée pour intégrer la plus puissante juridiction américaine. New York, Loïc Glory.
Ils étaient les derniers remparts à la nomination du juge Kavanaugh. Les sénateurs indécis, les seuls à échapper au clivage entre démocrates et républicains, ont finalement fait leur choix. Suzanne Collins, républicaine, avait notamment affirmé ne pas avoir de certitude. Hier, elle a pourtant dressé un panégyrique du magistrat. Autre personnage clé, Joe Manchin, démocrate, mais sénateur de Virginie-Occidentale. Il ne pourra pas être réélu dans un mois sans l'électorat de Donald Trump. Et il votera donc, lui aussi, en faveur de Kavanaugh. Le sénateur l'a annoncé sous les huées. Après des semaines de polémiques, après l'audition du juge et de sa victime présumée, ou l'enquête du FBI, retour donc à la situation initiale. Les sénateurs républicains, malgré les casseroles de Brett Kavanaugh, en effet se préparent à l'investir, oublier la défiance de certains à l'égard de Donald Trump. Le président devrait, sauf surprise, tenir sa promesse, avec comme conséquence à un mois des élections de mi-mandat de diviser encore un petit peu plus le pays. New York, Loïc Lory, France Inter.
Jour de vote vote aujourd'hui et demain en Roumanie. Les Roumains sont appelés à trancher la question du mariage homosexuel dans le cadre d'un référendum.
Ça va faire cinq jours maintenant que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a démissionné et au bout de 5 jours, eh bien toujours pas de remaniement en vue.
Oui, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon, fait comme si de rien n'était. C'est loin d'être le cas dans les cabinets ministériels où là, Laurence Perron se demande bien à quelle sauce on va être mangé.
Tout le monde est en apesanteur. La phrase émane du directeur de cabinet d'un ministre éminent, comme si le temps s'était arrêté à tous les étages de l'État. Certes, tous l'assurent, ils sont pour l'heure totalement à leur tâche. Aucun rendez-vous majeur n'a été annulé, à l'exception du déplacement d'Édouard Philippe en Afrique du Sud. Premier ministre et ministre de l'Intérieur, son entourage est serein, il gère. Le président de la République n'a pas non plus dérogé à ses obligations, de son recueillement à Colombelles-les-Deux-Églises, au discours sur la Constitution, ou même hier soir, la visite de l'exposition Miro, en compagnie de Brigitte Macron et du couple royal espagnol. Dans les bureaux, les conseillers, eux, s'arrachent les cheveux. Les rencontres informelles avec les journalistes sont annulées, mais il y a beaucoup plus ennuyeux, nous confie-t-on, c'est qu'il est impossible de lancer les agendas, de prendre de véritables initiatives. Au final, dit encore ce conseiller, ça ralentit l'action du gouvernement, c'est contre-productif. Parce qu'en fait, plus que d'apesanteur, c'est de pression dont il faudrait parler. En cas de remaniement plus vaste, certains ministres ne le seront peut-être plus dans les prochains jours.
Un remaniement partiel ou général que vous ne manquerez pas d'évoquer avec votre invité à 8h20, Éric Delvaux, invité qui n'est autre que le député de La République En Marche, Aurélien Taché.
Effectivement, alors que Charles Aznavour va être enterré aujourd'hui en région parisienne dans l'intimité, l'Arménie, elle, s'apprête à vivre une journée de deuil national.
Une journée qui était précédée hier soir d'une longue procession. Des milliers d'Arméniens ont en effet défilé, bougie à la main, dans les rues d'Erevan et gravi les 572 marches menant du centre de la capitale à la maison Aznavour sur les hauteurs de la ville. Une procession qu'a suivi notre envoyé spécial Philippe Rondé.
Essoufflé avec sa bougie à la main, Tigranouille termine l'ascension des 572 marches. Un peu plus haut, la maison Charles Aznavour, épilogue de cette procession qui a duré de longues minutes.
C'est très très impressionnant parce que par ici on voit les étoiles. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une seule étoile là-bas, regardez. Je pense que cette étoile s'est allumée pour Charles Aznavour. J'ai trouvé ma voie dans cette vie, on peut dire, grâce à Charles Aznavour.
150 marches plus bas, Jonathan Lacote, l'ambassadeur de France en Arménie, a tenu lui aussi à allumer une bougie et à se joindre au peuple arménien.
Je pense qu'ils sont très fiers d'avoir donné un grand homme à la France. Moi, ce qui m'a frappé, en étant français mais en vivant en Arménie, c'est à quel point la dimension franco-arménienne est présente à chaque étape. On n'est pas confronté à une situation où chaque pays voit sa moitié de Charles Aznavour. Tout le monde voit bien ce pont qu'il était, cette incarnation qu'il était de la relation entre la France et l'Arménie. Elle est symbolisée par des milliers de personnes, mais Charles Aznavour en était vraiment l'incarnation.
Et la semaine prochaine, comme un symbole, lors du sommet de la francophonie, le premier en Arménie, Emmanuel Macron se rendra à la maison Charles Aznavour pour renforcer encore un peu plus le lien entre les deux pays. Et Révan, Pierre Quintard, Philippe Rendez, France Inter.
Et à Paris, les cérémonies de funérailles commencent tout à l'heure à 10h ce matin. En attendant, en bohémien, le biopic consacré au chanteur de Queen, Freddie Mercury, prévu pour la fin du mois, une comédie musicale basée sur les chansons du groupe britannique s'installe en ce moment au Casino de Paris. Ce spectacle intitulé We Will Rock You, qui a enflammé Londres pendant plus de 10 ans, s'installe donc pour la première fois à Paris, Alexandra Kuhn.
We Will Rock You n'est ni l'histoire de Freddie Mercury ni celle de Queen. Nous voici dans un futur totalitaire où pensées libres et instruments de musique ont été bannis. Gavés d'internet blabla, les humains filent droit dans cet univers à l'esthétique post-apocalyptique, tous à l'exception d'une bande de bohémiens conduits par le doux rêveur Galileo Figaro et la rebelle Scaramouche. Parviendront-ils à faire renaître le rock ? Honnêtement, le spectateur s'en moque. L'histoire n'est qu'un prétexte pour passer d'un tube à l'autre. Des chansons qui, inutile de lutter, font automatiquement bouger les épaules et remuer les pieds. Et que Ned Grugic, metteur en scène de cette version française, a tenu à garder dans la langue de Shakespeare.
La pièce est en français et puis les chansons sont en anglais. On n'est pas dans une configuration de comédie musicale classique. On part de chansons très connues. Le public qui vient ici vient aussi pour Queen et pour réentendre les chansons. Donc pour moi, c'était un sacrilège de les traduire.
Comme aurait été ridicule d'essayer d'égaler Freddie Mercury à ses 4 octaves, Dorian Benn, qui joue Galileo et la troupe qui l'entoure, s'en sortent pourtant haut la main et dégage sur scène une énergie qui fait un bien fou. On n'en demandait pas plus.
We will rock you.
Ah, ça sonne quand même, hein.
Oui, Rock You au Casino de Paris, c'est jusqu'au 4 novembre. Et puis je vous rappelle que c'est ce soir à Paris, mais aussi dans de nombreuses capitales européennes, que sera donné le coup d'envoi de la 17e édition de Nuit Blanche. C'est la fin de ce journal, Éric Delvaux, et c'est à vous.
Le journal de Serge Martin.